أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers sœurs, chers frères, chers amis, ces cassettes sont donc la présentation du cours en quatre moments, dont l'intitulé principal est « Les exigences de la foi ». Donc au travers de quatre passages du Coran, l'idée est de présenter les exigences de la foi musulmane par rapport à Dieu, par rapport à soi-même, par rapport à autrui et par rapport à la création, et en même temps de traiter des questions contemporaines qui seront aujourd'hui, pour l'année, toute la question de la critique. Critique de la spiritualité, critique également de ce que l'on peut comprendre dans la dimension de l'arabe ou du musulman, critique de la démocratie et critique de l'intégration et du communautarisme. Je reviendrai un tout petit peu sur l'usage du mot critique, mais c'est en l'occurrence des cours qui vont nous orienter entre l'exigence de la foi dans l'évolution de quatre cours et puis quatre critiques sur des questions contemporaines. En même temps, donc, ces cours sont prévus dans la dynamique de présence musulmane du travail interassociatif. Ils s'appuient sur le bulletin, en l'occurrence le bulletin qui sera proposé cette fois-ci à partir de vos réalités locales, le bulletin Présence musulmane, qui reprendra les thématiques qui sont reprises en particulier dans les questions contemporaines. Et je me permets également de vous rappeler deux choses, c'est que vous pouvez avoir pour l'ensemble de cette dynamique et l'ensemble des informations qui concernent Présence musulmane ou qui concernent le travail interassociatif sur le plan local ou sur le plan national, voire même sur le plan francophone en Europe, accès au site de Présence musulmane, ce qui auquel vous pouvez vous rendre, c'est pmusulmane en un mot, pmusulmane.free.fr. Et vous trouverez là les textes des bulletins, ceux qui ont précédé, et puis en même temps ceux qui sont à venir, et puis l'ensemble des informations concernant les dynamiques sur le plan local. Je vous rappelle également que nous avions lancé depuis 2 ans le Fonds de solidarité de coopération Afrique, le FCA, dont le but était de récolter de l'argent pour pouvoir acheter des livres et des cassettes et du matériel pédagogique pour les associations, nos sœurs et nos frères en Afrique. Ça concerne des millions de personnes, les besoins sont très très importants et nous continuons à vous demander une participation. Alors les organisateurs de la rencontre où ces cassettes sont diffusées sur le plan local et sur un plan plus général vous demandent et vous demanderont une participation financière aussi dans ce sens-là, et nous vous demandons de faire bon accueil à cela parce que vraiment nous avons besoin d'un soutien financier pour eux. En envoyant des livres et des cassettes, nous soutenons et nous aidons la formation dans les différents voyages que j'ai pu effectuer cet été, en particulier à Madagascar. J'ai pu me rendre compte, encore une fois, d'une situation totalement déplorable. Ils ont parfois 3 cassettes qu'ils font circuler entre eux. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir accès à plus de savoir par manque d'argent, par manque de moyens. Et donc, c'est à nous. Vivant en Europe, vivant plus à l'aise, même si parfois c'est difficile, que beaucoup d'autres musulmanes et musulmans, de faire ce travail. Voilà, donc le bulletin pour continuer à lire sur les sujets que nous traitons, le site pour s'informer des différentes actions et le Fonds de coopération Afrique pour montrer notre solidarité à l'endroit des organisations musulmanes, en particulier en Afrique, essentiellement d'ailleurs en Afrique. Et donc faites bon accueil à cette demande. Jazakumullah kulli khair. Nous commençons aujourd'hui le 2e cours sur les exigences de la foi. Nous avons pu, lors du 1er cours, nous entretenir à l'aide de 2 sourates, surat al-Ikhlas ou surat al-Kafirun, des exigences de la foi, à savoir d'abord l'exigence de la connaissance de l'unicité de Dieu, de son caractère absolu, du fait qu'il n'est pas engendré et qu'il n'engendre pas, et en même temps du fait qu'il n'est que rien ne peut lui être égal, ou ne peut l'égaler au sens absolu du terme. Et puis en même temps, tout ce qui était attendu de l'homme, à savoir finalement un cheminement vers lui, un cheminement qui est fondé sur l'effort, une chose qui n'est pas du tout facile à vivre, à savoir se distinguer par un acte de conscience de ce que les gens peuvent croire, quand il est dit dans cette même sourate, la arbudu ma ta'budun, c'est-à-dire je ne crois pas, je n'adore pas ce que vous adorez, au sens de l'adoration absolue, pour se distinguer de tous ceux qui peuvent croire en des statues, qui peuvent croire en d'autres contingences de la vie. Ça peut être l'argent, comme nous l'avons dit, ça peut être eux-mêmes ou d'autres déterminations, le pouvoir ou le fait d'exploiter les êtres humains. Ce que nous avions vu dans cette première exigence de la foi, c'est que l'on ne vient pas à Dieu naturellement. Dieu met naturellement ses signes devant nous et il exige que nous fassions un effort pour venir à lui. C'est-à-dire que naturellement, il a mis en nous l'étincelle de la foi, c'est-à-dire dans notre cœur, mais en même temps, il nous demande un effort pour l'appliquer. Je vais prendre un exemple très simple. Chacun d'entre nous sait naturellement qu'il n'est pas bon de mentir. C'est-à-dire que on sent bien, même quand on est tout petit, que quand on ne dit pas la vérité, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Notre conscience n'est pas à l'aise. Naturellement, on le sait. Mais il faut un effort pour l'appliquer dans toutes les circonstances de la vie. Ce n'est pas parce qu'une chose est naturelle qu'elle est facile à faire. Elle est naturelle dans son origine, comme ne pas mentir est naturel. Je veux dire, ne pas mentir, on comprend naturellement qu'il ne faut pas le faire, mais il faut un effort pour y parvenir. C'est ça le chemin de la foi. Une chose naturelle en nous pour laquelle il faut un effort quant à l'application, à la vivre dans sa vie quotidienne. C'est vrai avec le mensonge, c'est vrai avec la sincérité, c'est vrai avec la fidélité, c'est vrai avec toutes les dimensions éthiques de la foi. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de continuer à comprendre que le chemin qui mène à Dieu, cette foi, a des exigences. Elle a des exigences par rapport à nous-mêmes. Par rapport à nous-mêmes, par rapport à la relation que nous entretenons avec nous. En d'autres termes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la première des exigences que j'ai vis-à-vis de vous, c'est ma reconnaissance. Mais la deuxième des exigences vis-à-vis de vous, c'est votre propre éducation. C'est de venir à moi, c'est de faire un travail. Et c'est un vrai djihad, c'est le sens premier du djihad. Et encore une fois, il faut toujours rappeler aux musulmans, ce n'est pas parce que certains musulmans, ou les gens autour de nous, en particulier quand on vit dans des sociétés majoritairement non musulmanes, ne comprennent pas le concept ou des concepts musulmans comme le djihad, qu'il faut les éviter en pensant qu'en les évitant, on sera plus modéré, on sera plus ouvert, on sera plus respecté. Absolument pas. Quand un mot est mal compris, il vaut mieux l'expliquer plutôt que de le faire disparaître de son vocabulaire. Surtout un mot aussi central que le mot djihad. Et ici, le terme djihad, effort sur soi, est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre concept central en islam. C'est celui de dhulm, c'est d'être injuste. Être injuste avec soi-même. Écoutez, trois situations. Adam alayhi salam et son épouse ont entendu Dieu leur dire « Ne vous approchez pas de cet arbre ». Et pourtant, ils s'en approchent. Première réaction, « Zalamna anfusana ». Allahumma inna zalamna anfusana, c'est-à-dire nous avons été injustes avec nous-mêmes. Si tu n'es pas miséricordieux et si tu ne nous pardonnes pas, nous serons de ceux qui sont les perdants. C'est la première des situations. Autre situation. Donc là, on a un prophète. Un prophète qui est Adam, alayhi salam. Mais on a une autre situation, qui est Moussa, alayhi salam, Moïse, qui se trouve dans une situation où il finit par tuer un être humain. Même attitude. J'ai été injuste à mes propres dépens. La reine de Saba, quand elle est reçue par Sulayman alayhi salam, un autre prophète, dit exactement la même chose. Elle se trompe sur la réalité. J'ai été injuste avec moi-même. En d'autres termes, ce que nous dit la foi, c'est que reconnaître Dieu, c'est faire justice, ce que nous avons dit sur le mot de Dain, c'est-à-dire une dette qu'on doit reconnaître. Reconnaître Dieu, c'est être juste avec lui, mais il faut encore chercher, par un effort constant sur notre propre être, à être juste avec nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire être juste avec soi-même ? C'est comprendre comment Dieu nous a créés et comment nous devons agir pour aller vers lui et mieux nous maîtriser. Qu'est-ce que c'est la justice vis-à-vis de soi-même ? Comment est-ce que je peux parvenir à être juste avec moi-même ? Alors le meilleur exemple que nous pouvons trouver dans le Coran, c'est un passage célèbre, très connu, commenté diversement par les Mufassirin, qui était une situation qui met en scène Ibrahim alayhi salam, Abraham, et son propre peuple. C'est dans Sourate Al-An'am, les troupeaux, et dans cette sourate, il parle à son peuple et il va leur faire faire le cheminement qui mène à l'exigence personnelle. Alors écoutons ces versets-là et essayons de voir comment est-ce que nous pouvons en tirer des enseignements. Donc ce sont dans Sourate Al-An'am les versets 75 à 82 que nous allons étudier aujourd'hui. Donc premier verset. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. On va s'arrêter là avant de parvenir à la troisième des étapes. On le comprendra avec la traduction. Ainsi, nous avons montré à Abraham les royaumes des cieux et de la terre, pour qu'il soit au nombre de ceux qui croient fermement. De ceux qui croient fermement, ce n'est pas tout à fait une bonne traduction. Pour qu'il soit au nombre de ceux qui sont emplis de certitude. Mokinin, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de doute, qui ont une foi inébranlable. Lorsque la nuit l'enveloppa, il vit une étoile et il dit « Voici mon Seigneur, voici mon Dieu ». Mais il dit, lorsqu'elle eut disparu, « Je n'aime pas ceux qui disparaissent ». Lorsqu'il vit la lune qui se levait, il dit « Voilà mon Seigneur ». Mais il dit, lorsqu'elle eut disparu, « Si mon Seigneur ne me dirige pas, je serai au nombre des égarés ». C'est deux étapes avant une troisième, celle qui va le mener face à face pendant la journée avec le soleil. Alors, première des choses que nous pouvons dire sur ce passage, c'est que Abraham va être aidé par Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa qualité de prophète, alayhi salam, pour s'approcher de Dieu, pour avoir accès à cette connaissance. Et surtout, une chose qui est extrêmement importante pour nous, c'est de comprendre que ce cheminement qui va vers Dieu va avoir des conséquences fondamentales sur la propre relation que j'ai avec moi-même, et puis ensuite, la relation que j'ai avec autrui, que nous verrons dans notre prochain cours, Inch'Allah. Première des choses qui est mise en évidence ici, alors, ce que je voulais dire d'abord, c'est que les savants ne sont pas d'accord sur l'interprétation de ce passage. Si vous allez dans le tafsir d'Ibn Kathir, par exemple, vous allez trouver une réflexion d'Ibn Kathir que certains savants ont suivi, mais pas tous, où il dit, il est évident ici qu'Abraham est en train d'enseigner quelque chose à son peuple. C'est-à-dire que lui-même n'a pas cru que l'étoile était Dieu ou que la lune aurait pu être Dieu. Puis ensuite, ce n'est pas, il n'y croit pas. Il est simplement en train de montrer à son peuple que ce en quoi eux, ils croient, ce qu'ils adorent, ce sont des éléments qui disparaissent. L'étoile va disparaître avec le jour comme la lune, puis le soleil disparaîtra avec la nuit. Donc en fait, il est en train de leur montrer, vous n'adorez que l'évanescent, que l'éphémère, que ce qui passe, ce qui n'est pas éternel. Et donc moi, mon Dieu, est éternel et il est au-delà de tout cela. Le Dieu unique, celui dont nous avons parlé lors de notre premier cours. D'autres savants disent, non, c'est le cheminement par lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait passer Ibrahim alayhi salam pour mener à cette foi en l'unique. Finalement, dans ce débat, il n'y a pas beaucoup de temps à perdre, si ce n'est pour relever les points communs. À savoir une chose, c'est que effectivement, il parle à son peuple pour les amener vers la connaissance de l'unique, et qu'en fait, que ce soit en se moquant d'eux ou que ce soit en le vivant réellement, l'enseignement, c'est que on se libère peu à peu de ce qui nous trompe, qui nous rend injuste avec nous-mêmes, pour aller vers ce qui est la vérité. D'autres termes, on peut tirer de toutes ces interprétations un message unique, commun. C'est celui de ce cheminement qui libère de l'erreur, c'est-à-dire de ces ténèbres de l'erreur, de cette mauvaise vue, de cette non-compréhension vers la vérité. Alors, que les interprétations sont contradictoires, elles ne le sont que dans la forme. Dans le fond, elles disent bien le sens du cheminement. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Et le premier verset est, est très très important dans la façon dont il est rapporté. La première des choses, c'est que ce que dit Abraham à son peuple, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'Abraham, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'univers, la création. Et le premier des chemins par lequel Allah subhanahu wa ta'ala va attirer l'homme vers lui-même finalement, c'est de lui faire voir la création qui est en face de lui. Ce que vous verrez dans les autres cours est le sens même du livre, c'est-à-dire qu'il y a le livre révélé, puis il y a le livre de ce monde créé qu'il faut savoir comprendre, qu'il faut savoir interpréter. Et c'est par ce regard sur la nature qu'Allah subhanahu wa ta'ala va prendre Abraham et le mener vers la certitude de sa présence. La deuxième des choses ici qui est mise en évidence, c'est ce cheminement où il va partir de la nature et il va aller vers le créateur de la nature. Premier des éléments qui est mis ici en évidence, c'est celui de l'étoile. Donc l'étoile, c'est ce qu'il voit dans la nuit et il se dit, voilà ce que sera mon Dieu, c'est-à-dire cette étoile qui apparaît dans la nuit et que je vais adorer. Et finalement, elle disparaît. Puis ensuite, la lune. Et finalement, elle disparaît. Qu'est-ce que symboliquement cela veut dire et qu'est-ce que matériellement cela veut dire? Cela veut dire en fait que la première justice que l'homme doit avoir vis-à-vis de lui-même, c'est de ne pas être attiré par ce qui d'abord l'attire. C'est d'avoir un acte de conscience et d'interpréter les choses. Immédiatement, quand on voit l'étoile, quand on voit un élément qui sort de l'ordinaire, l'étoile a cette particularité dans la nuit, c'est qu'elle brille. Quand tout monde est pauvre, la particularité de l'argent, c'est qu'il distingue, c'est qu'il brille au regard. Quand, dans le sens commun, on voit des choses, celui qui, tout à coup, est mis en évidence par les médias, dans le commun des hommes, le média fait briller l'idole nouvelle. Ce peut être un acteur, ce peut être un chanteur, ce peut être n'importe qui. Il brille par distinction, mais il n'est qu'illusion. Pourquoi ? Parce que quand tout le monde disparaît, il disparaît avec. Quand la distinction disparaît, il n'est plus rien. L'étoile n'est plus étoile quand il n'y a plus de nuit pour la montrer. L'idole au sommet de n'importe quel mode médiatique n'est plus une étoile, n'est plus une star. Le mot star en anglais veut dire étoile. Eh bien, elle disparaît quand disparaît ce qui est l'ombre qui lui donne sa lumière. C'est éphémère. C'est éphémère et c'est ceci qui est mis en évidence. Et puis ensuite la lune, parce que la lune c'est plus grand. Dès qu'on a vu une petite étoile, on peut être attiré par ce qui est plus grand. Et là c'est une chose qui est très très importante. C'est que ça n'est pas parce qu'on s'est libéré de petites idoles qu'on ne peut pas tomber dans le piège de plus grandes. Ce n'est pas parce qu'on s'est libéré de la petite idole qu'est le moi qu'on ne pourra pas tomber de l'idolâtrie de quelqu'un qui est peut-être plus grand que moi. Mais ça reste une idole. Ce qu'il faut, c'est se libérer de toutes les idoles, petites ou grandes. Et ici, plus grande que l'étoile et la lune, et plus grande que moi, et ce que la société met au-dessus de moi. Et donc, je peux passer d'une idole à l'autre, mais toujours dans l'illusion. Et puis, on peut changer de contexte. Ici, c'était deux idoles pendant la nuit. Et on peut même trouver des idoles dans le jour. C'est le soleil. C'est la troisième ici. « Falam ra'a shams baziratan qala » هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرْ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. De nouveau le même terme. Le même terme que nous avions trouvé par ailleurs. Traduisons ce passage, il est plein d'enseignements. Lorsqu'il vit le soleil qui se levait, donc la nuit est passée, elle a effacé les idoles de la nuit. Reste maintenant, on est dans le jour. Peut-être que dans la lumière, il n'y a plus d'idoles. Peut-être que quand il n'y a plus l'illusion de la nuit, on va se libérer de toutes les idoles du jour. Et pourtant, non. Même dans le jour, une idole apparaît qui est plus grande que les deux idoles de la nuit. Et c'est le soleil pendant le jour. C'est-à-dire, l'illusion, encore, c'est que c'est le soleil qui donne le jour et on peut s'illusionner en idolâtrant ce qui nous donne l'impression de donner sens à notre vie, c'est-à-dire ou illuminer notre vie. Et ici, c'est le soleil. Et quand il dit « Ceci est mon Dieu, ceci est plus grand ». Alors, vous comprenez bien, soit il se moque de son peuple en disant « Mais regardez, c'est comme ça que vous agissez, vous allez d'idole en idole, vous passez une idole à l'autre et vous avez l'impression de progresser, mais tout cela n'est qu'illusion ». Ce qui est extrêmement important pour nous, c'est qu'il se moque ou qu'il le vive lui-même dans ce cheminement qui mène à Dieu, Ce qui est extrêmement pour nous, ce qui est extrêmement important pour nous, c'est que l'effort de la spiritualité, le djihad de la spiritualité qui libère, elle refuse toute illusion, aussi grande soit-elle. Et justement, elle fait attention à ses plus grands. D'accord? Raison pour laquelle on dit Allahu Akbar. Et il n'y a rien d'autre après. Il est plus grand que tout le grand que ton imagination peut imaginer. Il est plus que tout cela. Donc rien ne lui est supérieur de ce point de vue-là. Et puis, elle disparaît, le soleil va disparaître avec la nuit. Et regardez ce qu'il dit. Ô mon peuple, je suis innocent. Inni bari'um. Inni bari'um mimma tushrikoun. Je suis innocent de tout ce que vous associez. En d'autres termes, il s'innocente de cela. Et nous avions déjà vu ce terme-là. Quand le prophète sallam a dit à son compagnon, lui a dit, lis juste avant de dormir la sourate Qul ya ayyuha al-kafirun. Il lui a dit, inha bara'a, c'est-à-dire, elle est innocente, min ash-shirk. Eh bien, c'est la même chose ici, Abraham qui dit, je ne veux pas être injuste avec moi-même. Je ne veux pas faire vivre mon cœur d'illusion. L'exigence de la foi vis-à-vis de moi-même, c'est de m'innocenter de tout ce qui va m'illusionner, de tout ce qui va être l'illusion de l'association. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois que quand vous avez tout votre peuple et que vous faites ce choix-là, il faut avoir du courage, il faut avoir de la patience, il faut avoir quoi surtout? La certitude, la conviction. Raison pour laquelle dans l'ordre des versets qu'on vient d'analyser, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous avons donné à Abraham les cieux et la terre pour qu'il soit assuré, qu'il atteigne cette certitude-là. Parce que sans une conviction profonde, les hommes nous entraînent et les illusions nous emportent. Raison pour laquelle c'est ce véritable travail qui est le travail du cœur. Et puis, dans cette justice-là, c'est-à-dire aller dans cette justice-là, ça va être aussi faire face aux hommes. Et regardez ce qui vient tout de suite après. Il dit, lui, je suis innocent. Et regardez ce qu'il dit comme exigence fondamentale de la justice que l'on se doit. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan wama ana min al-mushrikeen. J'ai, dit-il à son peuple, je tourne mon visage comme un vrai croyant, c'est-à-dire comme un croyant sincère, comme un être qui se tourne vers l'unique, vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis pas au nombre des polythéistes. En d'autres termes, ici, c'est le chemin vers la justice vis-à-vis de soi. Exactement ce qui va essayer de nous faire éviter ce que Adam alayhi salam, ce que est son épouse Hawa, de ce qu'a dit la reine de Saba, ce qu'a dit Moussa alayhi salam, c'est-à-dire justement essayer de ne pas être injuste avec soi-même, c'est-à-dire retrouver les chemins du juste par une attitude de justice à son égard, c'est-à-dire laisser tout ce qu'il a créé et qui est éphémère, laisser tout ce qu'il a créé et qui va disparaître avec le jour comme avec la nuit, pour aller vers l'éternel. El Hayyul Qayyum, qui est d'ailleurs, on peut le rappeler ici, une des traductions que l'on a données de Samad, c'est-à-dire El Hayyul Qayyum, c'est-à-dire celui qui est vivant et qui ne meurt pas. Dans ce travail-là, on vient d'assister ici à une entreprise qui est un cheminement spirituel. La première des exigences de la foi pour l'être, c'est de s'engager dans cette recherche-là. Alors, critiquer les êtres humains parce qu'ils peuvent croire en l'une ou l'autre des idoles est une chose. S'engager dans la recherche de la vérité, la première des justices que l'on doit à son cœur. Mais ce n'est pas fini. Dans le travail que l'on doit faire sur son cœur, il va y avoir un moment où on va se confronter aux êtres humains. Vous avez ici Ibrahim alayhi salam qui discute avec son peuple. Il ne refuse pas le dialogue. Être sûr de ce que l'on croit ne veut pas dire refuser le dialogue avec ceux qui ne croient pas ce que l'on croit. Dans la foi devant Dieu, la kumdin, kumwa liyadin, vous avez votre façon de vivre, j'ai la mienne. Mais discutons. Mais nous pouvons discuter. Nous pouvons avoir ce débat. Et parfois, c'est dans la dispute que les choses peuvent se faire. Ici, si l'on vient avec les versets qui suivent, qu'est-ce qu'il est dit? وَحَاجَّهُ قَوْمُ. Son peuple l'a interpellé, s'est adressé à lui, l'a apostrophé ou discuta avec lui. Et qu'est-ce qu'il lui dit? قَالَ أَتُحَاجُّنِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّ شَيْئًا وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Est-ce qu'il dit, son peuple discuta, l'interpella, l'apostropha. Il dit alors, vous disputerez-vous avec moi au sujet de Dieu alors qu'il me dirige, alors qu'il m'a dirigé? Je ne crains rien venant de ce que vous lui associez, sauf ce que permettra mon Seigneur. La science de mon Seigneur s'étend à toute chose. N'êtes-vous pas de ceux qui réfléchissez? Comment redouterais-je ce que vous lui associez alors que vous ne craignez pas d'associer à Dieu ce à quoi il n'a conféré aucun pouvoir? Quel est celui des deux parties qui est le plus sûr, si seulement vous compreniez? Une dimension très importante ici. Il faut le savoir parce que c'est une dimension fondamentale. Ce à quoi est confronté aujourd'hui les femmes et les hommes qui portent foi en Dieu. La première des justices que l'on se doit et la première des choses que Dieu attend de nous, c'est cet effort. Ce jihad in nafs, cet effort sur soi-même pour se libérer des idoles et justement de savoir que nous sommes dans une société où il y a beaucoup d'étoiles, beaucoup de stars, il y a beaucoup de lunes et il y a beaucoup de soleils. Des soleils que l'on vénère, des soleils que l'on adore et il faut s'en libérer. Mais ça ne se fera pas sans prix, ça ne se fera pas sans dispute, ça ne se fera pas sans rejet. L'exigence vis-à-vis de soi, c'est de rester dans cette certitude-là et même d'interpeller. Je n'ai pas peur de ce à quoi vous donnez de la puissance, parce que tout au fond de moi, je sais que ce que vous donnez comme puissance à ces choses-là ne sont que des puissances et des pouvoirs éphémères. Je n'ai pas peur de ce qui est éphémère. Je n'ai pas peur, et c'est un vrai travail, parce que ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de rester assis en disant « j'ai pas peur ». C'est un vrai travail. Le courage dans son cœur, c'est un chemin que l'on a dans sa spiritualité, c'est un effort, un travail personnel tous les jours. On peut faire semblant de ne pas avoir peur, on n'en a pas moins peur. Quelqu'un qui fait semblant de ne pas avoir peur, il a peur. Celui qui n'a pas peur, il ne sait même pas de quoi on parle quand on commence à en parler, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans cet état-là. Et quand on l'interpelle, il dit « mais de quoi aurais-je peur? Vous venez avec des pouvoirs, vous venez avec des illusions et vous me dites ça, c'est le pouvoir suprême. Je n'en ai pas peur. Et regardez Abraham qui va être, alayhi salam, qui va être rejeté par son peuple. Eh bien, la justice vis-à-vis de soi, c'est parfois de faire face à l'injustice des hommes. C'est parfois de la regarder en face, d'avoir le courage de dire la justice que j'attends du juste ne me fait pas peur, me pousse à ne pas avoir peur de l'injustice de ceux qui peuvent être injustes, c'est-à-dire des hommes. Et je ne crains pas le pouvoir de ce que vous lui associez. C'est-à-dire, si vous associez votre propre pouvoir à la puissance absolue, c'est-à-dire parfois quand on est président d'une république quelconque, quand on est président d'une puissance, eh bien tout ça, ce sont des pouvoirs tout à fait relatifs. Et lui, il dit, je ne crains pas ce que vous lui associez. La science de mon Seigneur s'étend à toute chose. Peut-être réfléchirez-vous. Donc en l'occurrence ici, nous sommes bien dans un ordre fondamental, c'est-à-dire d'une justice que l'on se doit à soi-même, d'un travail que l'on doit faire sur soi pour parvenir à se libérer de toutes ces idoles, de s'emplir de cette unicité de Dieu dans son cœur, mais au-delà de cela, par rapport à tous les êtres humains, de savoir qu'adversité il y aura, qu'injustice il y aura, que même oppression, répression il y aura, c'est ce qui adviendra avec Abraham, mais qu'il reste toujours dans cette dimension-là. Mais il y a surtout une chose, même sous l'oppression, même dans le rejet, par justice devant Dieu, il continue à parler. Il ne cesse de parler de la justice aux gens injustes. C'est tellement vrai ceci que même celui qui dira « Ana rabbukum al-a'la » Pharaon, Allah lui envoie deux personnes. Un prophète, Moussa alayhi salam, et Haroun, son frère. Et il leur dit, dites-lui des paroles douces, peut-être qu'il va se souvenir, peut-être qu'il va craindre. Donc, on ne sait jamais d'où peuvent venir les injustes, mais on sait toujours qu'il faut aller à leur rencontre et leur parler, même sous la pression, même sous l'oppression, même sous la répression. La justice que l'on se doit, c'est toujours de parler d'elle. Et la justice que l'on se doit, c'est de ne jamais craindre l'injuste, puisque l'on essaye d'aller vers cette justice. Et le dernier élément sur lequel nous allons terminer aujourd'hui, est fondamental. Il nous mène vraiment à quelque chose de déterminant. Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle justement de ces deux voies, parce que finalement c'est le farqayn, c'est-à-dire quels sont ceux qui sont le plus en paix. Apparemment, ceux qui ont le pouvoir sont en paix. Ce n'est pas vrai. On peut avoir le pouvoir et ne jamais être en paix. Les seuls êtres qui sont en paix, ce sont ceux qui sont justes avec Dieu et justes avec eux-mêmes. C'est-à-dire en paix avec eux-mêmes, c'est-à-dire dans une situation d'équilibre. Alors, pour nous, en tant que croyants, c'est être en paix avec Dieu et être en paix avec nous-mêmes. Alors, il se peut que des gens trouvent une paix intérieure d'une autre façon. Nous, ce qui nous est enseigné, c'est que quand on sait que Dieu est, on ne trouve la paix que quand on est en paix avec lui et en paix avec nous-mêmes. Et regardez ce qui est dit et qui va clore notre discussion d'aujourd'hui. « Alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun » Il vient de dire « Je suis innocent de ce, à quoi vous, de ce que vous associez à Dieu, je n'ai pas peur du pouvoir que vous donnez aux choses éphémères » et il termine en disant ceci « Ceux qui portent foi en Dieu et qui ne revêtent pas leur foi d'injustice. » Vous voyez ici la traduction dit de prévarication. Ce n'est pas le terme. Bidhulm, ça veut dire d'injustice. Se trouvent en sécurité et ils sont bien dirigés. Vous ne pouvez pas comprendre ce verset littéralement si vous ne comprenez pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Il nous dit justement que la vraie justice, c'est de reconnaître Dieu. Et la vraie justice vis-à-vis de soi, c'est d'appliquer ce qu'il nous demande. C'est de faire ce qu'il nous demande. Et ici, c'est fondamental. Les croyants étaient autour du prophète, sallam, ils ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui habillent leur foi d'injustice? Comment est-ce que je peux avoir une foi injuste? Et le prophète, sallam, premier commentateur du Coran, dit avec force, venez à Surat Luqman. Surat Luqman, c'est une autre sourate du Coran. Et Luqman dit à son fils, Ya Bunaya, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Ô mon fils, n'associe rien à Dieu, parce que associer quelque chose à Dieu est une grande injustice. La dhulmun azim. Donc le prophète sallam utilise ces versets pour expliquer ce verset ici que nous avons et qui met en évidence le fait d'habiller sa foi d'injustice. Et d'habiller sa foi d'injustice, c'est justement de ne pas se libérer de ses idoles, de ne pas se libérer de ce que suivent le plus grand nombre. Et on conclura en disant et en comprenant que nous devons être justes avec nous-mêmes. Donc ceux qui croient en Dieu et qui agissent le mal contre leur foi, Allahumma zalamna anfusana. Dieu, nous avons été injustes avec nous-mêmes. Ceux qui croient en Dieu et qui en même temps croient à d'autres choses, ils adorent l'argent, ils adorent des stars, ils adorent le monde médiatique, ils adorent, même on va bientôt arriver à des gens qui sont en état d'adoration virtuelle du monde de la virtualité. Eh bien ceux-là, ils sont injustes avec eux-mêmes, ils habillent leur foi d'injustice. Et donc la vraie justice, celle qui mène à Dieu, c'est de se libérer de tout ce qui est virtuel, de se libérer de toutes ces illusions, de se libérer. On voit des jeunes, regardez, vous voulez un exemple de changer l'étoile par la lune? Un exemple très simple. Il y a des gens, ils regardent la société, puis ils disent, regardez-moi cette société, ils sont dans les banlieues françaises, ils sont dans les banlieues américaines, ils sont contre le système, l'illusion du système. Alors pour jeter l'étoile, ils vont finir par adorer la lune. Alors ils jettent le système, c'est l'illusion de l'ordre, c'est l'illusion d'une société qui aime l'argent. Alors eux, ils disent, nous on refuse l'argent, de toute façon l'argent ça ne sert à rien. Et quand vous les regardez, ils finissent par adorer les marques de vêtements. La marque c'est la lune, l'argent c'était l'étoile. Puis ensuite, plus que ça, on les verra rejeter même parfois certaines adorations, puis se tourner vers d'autres, les voitures, le pouvoir, le fait de paraître. En d'autres termes, même dans les lieux où l'on rejette les illusions, on peut continuer à s'illusionner. On voit beaucoup de nos jeunes qui croient être contre le système de l'argent, ils en sont les premiers esclaves. Je crois que de ce point de vue-là, il faut suivre l'exemple de Ibrahim alayhi salam, qui nous enseigne ici par cet exemple comment il faut s'approcher de Dieu dans ce cheminement-là. Il demande de reconnaître Dieu, il demande de lutter contre ses propres injustices, il demande de se libérer, de libérer son cœur pour être avec lui en permanence. Et finalement, d'agir comme l'on doit agir pour la justice, avec le juste, sans aucunement se laisser aller à ce qui parfois nous arrive, à savoir à nous illusionner et à revenir à des attitudes parmi les hommes qui sont des attitudes d'adorateurs ou d'adoration qui sont malsaines. En d'autres termes, c'est le chemin de cette liberté et nous aurons, inshallah, lors du prochain cours, la possibilité de revenir à cela dans les relations que nous devons établir avec notre environnement. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه.